Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série de cours consacrée à la fin de l'Antiquité et à l'école pendant cette période. Alors le plaisir de vous retrouver a été hélas assombri par une nouvelle qui a touché toute la communauté des papyrologues cet été, la disparition de Raffaele Cribiore. Alors, je ne pouvais pas ne pas commencer les cours de cette année sans évoquer la mémoire de cette grande savante qui a consacré toute sa vie à l'histoire de l'enseignement, principalement à travers les papyrus. Mais pas simplement d'ailleurs à travers les papyrus, hein, elle est allée beaucoup plus loin et elle a travaillé de façon beaucoup plus large. Alors, Raffaele Cribiore est né à Varèse le 27 mars 1948 et a fait ses études à Milan, notamment auprès d'une des grandes papyrologues historiques qui est Orsolina Montevecchi à Milan. Son mariage l'amène à quitter l'Italie pour les États-Unis, elle s'installe à New York. Elle y fonde une famille avant de reprendre ses études, couronnée par un doctorat supervisé par Roger Bagnall, que certains d'entre vous ont peut-être vu, puisque je l'avais invité il y a 2 ans comme professeur invité ici au Collège de France. Et je lui dois d'ailleurs certaines des informations de cette nécrologie. Alors ce travail de doctorat a été révisé et a abouti à son magistral « Writing Teachers and Students in Greco-Roman Egypt », publié en 1996. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi ce cours l'an dernier, c'est un livre que j'ai très souvent cité et que je continuerai à citer car c'est la première étude systématique des papyrus scolaires qui soit fondée sur un corpus soigneusement établi, précédé d'une synthèse qui tente d'établir une grille de critères objectifs permettant d'identifier les papyrus scolaires autrement que par leur contenu, et on a vu l'an dernier, et on le verra encore cette année, combien le contenu de ces papyrus peut quelquefois égarer l'interprétation que l'on est amené à faire de ces textes. Alors, se fondant au-delà de la nature des exercices, au-delà de leur contenu, sur la matérialité des documents scolaires, sur leur écriture, leur paléographie, et d'autres caractéristiques dont elles montrent qu'elles sont propres aux exercices scolaires, eh bien, Raffaele Cribiore a pu ainsi identifier 412 textes comme étant de nature scolaire et permettant de suivre le parcours de l'élève dans la classe du grammatodidaskalos ou grammatistes, hein, le grammatiste, celle du grammaticos, le grammairien, le niveau supérieur, hein, celui du rhétor ou du sophistes, le rhéteur ou le sophiste, étant très difficile à repérer, on l'a vu l'an dernier, à travers les papyrus. Alors ces difficultés ne l'ont cependant pas découragé de s'intéresser à l'enseignement que nous appellerions aujourd'hui, mais d'un terme qui est peut-être un petit peu anachronique, l'enseignement supérieur. Eh bien, après avoir publié une monographie synthétique, là encore sur l'enseignement dans l'Égypte gréco-romaine, qui est destinée à un public peut-être plus large que les seuls papyrologues, hein, Gymnastic of the Mind, Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt, publié en 2001, ouvrage que j'ai eu l'occasion, là encore, souvent de citer ici même. Eh bien, après la publication de cet ouvrage, Raffaele Cribiore s'est consacré à l'auteur grec qui a laissé l'œuvre documentant de la façon la plus détaillée cet enseignement supérieur du sophiste ou du rhéteur. C'est justement le rhéteur grec du IVe siècle, Libanios, hein, et c'est ce, elle a publié 2 ouvrages, The School of Libanius in Late Antique Antioch, en 2007, suivi de Libanius, The Sophist, Rhetoric, Reality and Religion in the Fourth Century, en 2013. Alors, les rapports du maître avec ses élèves et leurs familles, l'organisation des classes de Libanios, ses réseaux, son enseignement de la rhétorique, tout cela est décortiqué dans ses ouvrages avec méthode et avec un sens de la perspective et font de ces livres des lectures fondamentales pour quiconque s'intéresse à la culture, à l'école, à la rhétorique du IVe siècle, époque, hein, je le répète, où tout bascule, comme s'en lamente d'ailleurs lui-même Libanios, qui est le premier à vitupérer contre l'évolution malsaine de la culture qui passe d'un savoir à un savoir-faire, etc. Bon. La parfaite connaissance qu'a Raffaella de cet auteur, qui n'est pas toujours très bien servi hein, par les traductions modernes, l'a amené à traduire et commenter avec la plus grande fidélité possible eh bien, 10 de ses discours en 2016, hein, Between City and School, Selected Orations of Libanius, publié à Liverpool. Alors, Raffaella n'en a pas pour autant délaissé le monde des papyrus. Hein, comme spécialiste de l'enseignement, elle ne pouvait pas ne pas s'intéresser à l'éducation des filles et à leurs conséquences sur leur alphabétisation dans un monde où on se soucie fort peu de la scolarisation des filles. Qu'il suffise de rappeler ce que Jean Chrysostome écrivait dans son De Sacerdotio 1-2 sur la différence entre l'éducation des filles et des garçons. Si le défunt quitte ce monde en laissant un enfant, dans le cas où c'est une fille, elle sera pour sa mère cause d'un grand souci, sans pour autant entraîner frais et inquiétudes, tandis qu'un fils l'emplit chaque jour de 1000 craintes et de plus grands soucis, sans compter les dépenses auxquelles elle est contrainte lorsqu'elle désire lui donner une éducation libérale. Et vous voyez que l'éducation libérale, l'instruction, en fait, n'est envisagée que pour un enfant mâle. Aussi, Raffaella s'est-elle intéressée en collaboration avec Roger Bagnall, au témoignage écrit, il s'agit évidemment avant tout des lettres que l'on trouve en abondance dans la documentation papyrologique, laissées par les femmes. Cette recherche a abouti à la publication, d'abord sous forme papier et ensuite sous forme numérique, d'un volume intitulé « Women's Letter in Ancient Egypt », qui couvre toute la période papyrologique de 300 avant jusqu'à 800 après, où Bagnall et Cribiore établissent pour la première fois le corpus de toutes les lettres écrites par des femmes et essaient dans l'introduction d'en dresser une typologie et d'en établir des caractéristiques, disons, notamment paléographiques. Qu'est-ce qui distingue une lettre de femme par rapport à la même époque à une lettre d'un homme ? Alors, sa noyade accidentelle cet été, sa noyade ne lui a pas permis de voir la publication de son dernier livre, « Listening to the Philosophers, Notes on Notes », qui va paraître très prochainement, en mai 2024. Et dans ce livre, dont Raffaella, je dois dire, avait eu l'occasion de me parler pas plus tard qu'au dernier congrès de papyrologie ici même, eh bien, elle revient sur un certain nombre d'ouvrages de philosophes, allant d'Aristote jusqu'à Jean Philopon, pour montrer que, dans un certain nombre de cas, il s'agit clairement de notes prises par un ou plusieurs étudiants dans leur salle de classe plutôt que d'ouvrages écrits par les philosophes en question. Et je crois que ce livre apportera de nouvelles lumières sur l'enseignement de la philosophie, achevant d'une certaine façon cette œuvre commencée avec l'enseignement du premier et second degré. Alors, elle ne s'était cependant pas désintéressée de l'enseignement élémentaire jusqu'à la fin, puisque elle travaillait avant de disparaître à l'édition d'environ 150 ostracas scolaires coptes trouvés sur la rive ouest de Thèbes, appartenant à la collection de l'Université de Columbia, dont elle a d'ailleurs été conservateur ou conservatrice un certain temps. Ce travail qu'elle a eu le temps d'achever sera prochainement édité par sa co-auteure, Jennifer Cromwell, que j'ai d'ailleurs invitée à parler à mon séminaire le 4 avril. Je pense que ce sera assez intéressant de découvrir toute cette documentation inédite qui recoupera d'ailleurs pour une part les papyrus et les ostracas dont j'aurai l'occasion de vous parler tout au long de cette année. Raffaella a continué aussi jusqu'au bout à s'intéresser à l'école d'Ameïda. Vous vous souvenez de cette école hein, que je vous ai présentée l'an dernier. C'est une école dont les murs, servant de tableau, étaient couverts de poèmes à l'adresse des élèves et qui a été découverte lors de fouilles menées par l'Université de New York dans l'oasis de Kharga. Alors, il se trouve que Raffaella était dès le départ le pilier de cette mission archéologique et on peut dire que cela tient du miracle que quelques années après le lancement de cette mission, eh bien, elle est mise au jour en 2006, la seule école du second degré connu en Égypte, alors que, justement, Raffaella faisait partie de cette mission et qu'elle elle comptait parmi... Elle était la plus grande spécialiste de l'école. Hein. C'est un des rares cas, je dirais, où la tuquée papyrologique a fonctionné à plein. Elle a publié, justement, les inscriptions de cette salle de cours en 2008, en 2013... Elle a donné une synthèse sur cette école dans un ouvrage publié en 2016, An Oasis City. Mais encore récemment, elle venait de recevoir des images encore plus précises de ces deep inti hein, sur les murs de cette classe qui avaient été obtenues grâce à un logiciel qui s'appelle D-Stretch. Hein, vous voyez quelques photos qu'elle a gentiment voulu, qu'elle a bien gentiment partagées avec moi quelques mois avant son décès. Et ces nouvelles images ont été pour elle l'occasion de reprendre le dossier de ces inscriptions, de ces deep inti, pour justement le congrès international de papyrologie qui s'est tenu ici même, hein, dans les murs du Collège de France, en 2022. Et certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de la voir et de la croiser durant cet événement. C'était une personne affable, d'une grande élégance et que j'avais, je dois dire, toujours plaisir à fréquenter lorsque nous nous retrouvions de colloque en colloque ou de congrès en congrès ici, lors d'un petit apéritif que nous avions pris dans notre hôtel à Lecce, au congrès papyrologique de Lecce en 2019. Et je me souviens encore de façon très vive d'un colloque qui s'est tenu en 2005 à Alexandrie où nous avons visité ensemble les salles de cours, hein, les fameux auditoria que je vous ai présentés l'année dernière, où les grands rhéteurs, les grands philosophes, les plus grands médecins de la fin de l'Antiquité enseignèrent ici même. Et l'école, là encore, nous réunissait hein, sur des bancs de pierre de plus de 1500 ans. Alors, je n'ai pas de photos d'elle pendant ces visites. En revanche, je garde encore une trace d'un dîner que nous avions fait sur le bord de la Méditerranée, sur la corniche d'Alexandrie, à quelques pas de l'emplacement de l'ancien phare d'Alexandrie. Alors, ça, j'ai pas besoin de vous dire que sa disparition va laisser un vide scientifique. Il n'est pas exagéré, je crois, de dire que sur le sujet de l'école gréco-romaine, eh bien, il y aura dorénavant un avant Cribioré et un après Cribioré, tant elle a jeté les fondements de la papyrologie scolaire, qui, grâce à elle, a non seulement acquis ses lettres de noblesse, mais s'est dotée d'outils de travail et de méthodologie qui la rendent moins soumise, je dirais, aux aléas de l'impressionnisme, de la subjectivité. Ah, ce papyrus, oui, ça semble être scolaire. Bon. Et justement, elle a essayé de mettre en place une grille solide d'interprétation de ces textes. Et je reconnais ici même, devant vous, ma dette envers cette grande savante, et je ne peux faire moins que de dédier à sa mémoire les cours de cette année, en tant que modeste témoignage de mon admiration pour son œuvre. Alors, l'an dernier, eh bien, j'ai posé avec vous les cadres de l'enseignement traditionnel grec avec son organisation théorique, hein, trois niveaux, celui du grammatiste, celui du grammairien, celui du sophiste. Degré qui, dans la pratique, nous l'avons vu, était moins hermétique que le laissent penser les sources littéraires, mais qui se vauchaient, s'intriquaient, se mélangeaient selon les contextes. J'avais fini avec le problème de la christianisation de l'enseignement, mais en l'abordant d'un point de vue pédagogique et, je dirais, général. Je voudrais cette année replacer le problème de la christianisation dans les écoles, dans un double contexte historique qui est marqué par la part croissante prise par l'Église et le monachisme dans la société de la fin de l'Antiquité, et par la montée dans cette même société de la langue des chrétiens d'Égypte, le copte, qui véhicule avec lui des valeurs et une culture qui tranche évidemment sur celle que transmet la langue grecque qui, je le rappelle, est toujours à notre époque la langue officielle de l'Égypte, hein, la langue utilisée de façon exclusive par l'administration. Ça, ce sont des problèmes que j'avais évoqués il y a quelques années dans mon cours sur Babel, intitulé Babel sur le Nil. Ces deux évolutions fondamentales ne pouvaient pas ne pas affecter le monde de l'enseignement ni modifier son organisation. Alors, assiste-t-on durant cette période, à l'apparition d'écoles aux mains de l'Église ? Voit-on se développer un enseignement copte autonome, ce qui pose évidemment la question de l'impact du bilinguisme et plus largement du biculturalisme sur le plan éducatif ? Telles sont les questions, questions qui sont, vous voyez, pour une part intriquées l'une dans l'autre, auxquelles nous allons nous intéresser cette année. Des écoles dans les monastères. Et j'ai pris la peine de mettre un point d'interrogation. Alors, cette question est au cœur du dernier chapitre de cet autre ouvrage que j'ai cité souvent l'an dernier, cet ouvrage fondamental, celui d'Henri-Irénée Maroux, « Histoire de l'éducation dans l'Antiquité ». Dernier chapitre intitulé « L'apparition des écoles chrétiennes de type médiéval ». Alors, comme cet ouvrage... Malgré sa date, hein, je vous rappelle qu'il date de 1948 et la sixième édition est de 1964, constitue toujours la vulgate en matière d'éducation dans l'Antiquité et que tous les auteurs le citent comme la Bible en matière d'éducation, eh bien je crois qu'il n'est pas mauvais de partir de ce qu'écrit Maroux. Et nous verrons que c'est peut-être le point faible, parce que plus vieilli, disons, que le reste de son ouvrage. C'est peut-être le point faible de ce livre, qui est par ailleurs, je le redis, hein, tout à fait remarquable. Alors, dans le chapitre qui précède, hein, le christianisme et l'éducation classique, après avoir évoqué le développement d'écoles chrétiennes dans le monde syriaque, problème dont nous parlera Muriel Debié le 29 février à mon séminaire, donc dans le monde syriaque, mais aussi dans le monde arménien, géorgien et slave, eh bien, Henri-Irénée Maroux conclut de la façon suivante. Rien de pareil dans l'ère propre de la culture gréco-latine. Aussi longtemps que dure l'Antiquité, les chrétiens, sauf quelques cas exceptionnels et limités, n'ont pas créé d'école qui leur fussent propres. Ils se sont contentés de juxtaposer leur formation spécifiquement religieuse, assurée, on l'a vu, par l'Église et la famille, à l'instruction classique qu'ils recevaient, au même titre que les païens, dans les écoles de type traditionnel. Alors plus loin, après avoir montré l'opposition du christianisme occidental à l'école classique, il ajoute, vis-à-vis de celle-ci, et donc il parle plus particulièrement de la culture préparatoire que constitue l'école classique, vis-à-vis de celle-ci, l'attitude de l'Église ancienne a été toute différente. Parfaitement consciente de la nécessité ou le caractère savant, lettré de la religion chrétienne mettait le fidèle d'avoir accès à la culture littéraire, l'Église n'a vu d'autre solution que de laisser la jeunesse se former dans les écoles de type hellénistique traditionnel. Alors, hellénistique, j'aurais employé plutôt le terme d'hellénique, on dirait plutôt hellénique maintenant. Théorie et pratique sont ici parfaitement d'accord. La distinction, continue-t-il, la distinction que j'ai proposée se trouve très nettement mise en œuvre dans les textes. Ainsi, saint Jérôme, tout à fait dans l'esprit du droit canon, blâme les prêtres qui, négligeant les évangiles et les prophètes, perdent leur temps à lire des auteurs profanes. Il leur fait un crime de faire volontairement ce qui, dans le cas des enfants, est une nécessité pratique de l'éducation. Id quid in pueris necessitatis est, crimen in se facere voluntatis. Autrement dit, si l'on résume la position de Marou, les chrétiens n'ont pas cherché à remplacer l'école traditionnelle par une école chrétienne. Ils ont juxtaposé la formation religieuse assumée par la famille et plus tard par l'Église à travers des enseignements destinés aux catéchumènes à la formation traditionnelle délivrée par l'école classique dont on conserve les fondamentaux. Alors certes, l'école catéchétique d'Alexandrie avec Origène au début du IIIe siècle, dont j'ai eu l'occasion de parler, avait tenté de développer un modèle de formation chrétienne institutionnalisée, mais cet essai n'a pas duré longtemps, et après, je reprends les termes de Marou, il n'y a plus d'école supérieure de religion. Les fidèles ne reçoivent d'autres formations que celles de la catéchèse élémentaire et de la prédication. Le clergé n'est pas formé dans des écoles, mais par les contacts personnels avec l'évêque et les prêtres plus âgés au sein du clergé local auquel on se trouve agrégé souvent très tôt, dès l'enfance, en qualité de lecteur. Ainsi, au point de vue de ces institutions pédagogiques, il y a du IIIe siècle au IVe siècle non pas un progrès, mais une régression formelle. Alors après ce constat, Marou ouvre un nouveau et dernier chapitre intitulé, je l'ai déjà dit, « L'apparition des écoles chrétiennes de type médiéval ». Alors, vous voyez, ce titre est déjà bien évocateur de sa vision. Nous sommes en train de quitter les rivages de l'Antiquité pour ceux qui lui sont bien lointains dans l'esprit, ceux du Moyen-Âge. Un Moyen-Âge très occidental. Dans ces dernières pages du livre, Marou apporte un bémol à la volonté de l'Église de ne pas vouloir créer des écoles chrétiennes. Dès le IVe siècle, nous voyons cependant apparaître, et là c'est très important pour mon propos, un type d'école chrétienne tout entière ordonnée à la vie religieuse et qui n'a plus rien d'antique. Mais cette école, déjà toute médiévale d'inspiration, reste longtemps le bien propre d'un milieu particulier et rayonne peu au dehors. Il s'agit de l'école monastique. Très tôt, semble-t-il, les pères du désert d'Égypte accueillirent parmi eux des adolescents ou même des jeunes enfants. Exceptionnels sans doute au début, ces vocations précoces se multiplièrent par la suite. Les grandes communautés organisées par Saint Pacôme, j'aurai l'occasion d'y revenir longuement cette année, comptaient normalement de nombreux enfants. Puisqu'ils les recevaient, les moines étaient bien obligés de se charger de leur éducation. L'enfant, comme tout novice, est confié à quelques vénérables vieillards pleins d'expérience et de vertu qui lui servira de père spirituel, appa, forme copte d'abbé, celle de père. On trouve aussi d'ailleurs la forme abba. Bon. Il en recevra essentiellement une formation ascétique et morale, spirituelle plutôt qu'intellectuelle. Et plus loin, et ce sera mon dernier extrait, nous touchons là à un des traits les plus caractéristiques du monachisme oriental, baignant dans un milieu culturel de niveau somme toute toujours maintenu, le couvent n'a pas à assumer dans la société un rôle pédagogique pour lequel il n'a pas été conçu. Plutôt que de devenir un centre d'études, il se préoccupe de rester un ascétaire. Et là, Marou utilise un terme, un calque, d'une des dénominations qu'on utilisait dans l'Antiquité pour le monastère, asketerion, là où on pratique l'ascèse. Et c'est d'ailleurs dans le chapitre que Socrate le scolastique consacre au monachisme égyptien, c'est le terme qu'il utilise pour monastère. Loin de rayonner sur le monde, il cherche à s'en isoler. Alors, voyez, si l'on suit Marou, on aurait donc à la fin de l'Antiquité deux types d'écoles très différentes dans l'esprit comme dans les objectifs. Une école mondaine, j'utilise le terme dans le sens de celle du monde, c'est-à-dire une école laïque, dont les cours sont dispensés par les laïcs et qui continuent comme avant, malgré, on l'a vu l'an dernier, une discrète christianisation. notamment dans la liste des mots que les écoliers apprennent pour apprendre à lire et à écrire. Bon. Donc d'un côté, cette école mondaine, et de l'autre, une école monastique qui forme à la l'ascèse les futurs moines sans empiéter hein, sur la chasse gardée de la première, ce qui lui est d'autant plus facile que, porté par un idéal de simplicité, eh bien, elle rejette évidemment la païdéia classique avec ses références à la littérature profane et sa préparation aux complexités de la rhétorique, hein, on l'a vu avec ses fameux exercices préparatoires à la rhétorique. Alors, ces conclusions sont celles de Marou, ont été récemment, et je dois dire sainement, remises en question dans un ouvrage collectif édité par Liliane Larsen et Samuel Rubenson, Monastic Education in Late Antiquity, The Transformation of Classical Paideia, publié à Cambridge en 2018. Donc un ouvrage tout récent, et le but avoué de ce volume est, comme le disent d'emblée hein, les éditeurs scientifiques dans l'introduction, je les cite, hein, est de contester l'hypothèse selon laquelle les expressions du monachisme chrétien ont été sans précédent et n'avaient pas de précurseur évident et ou de parallèle gréco-romain. Il continue en disant « Ce volume présente, au contraire, les établissements monastiques comme des centres culturels et ecclésiastiques qui ont créé un cadre institutionnel largement responsable de la préservation et de la diffusion non seulement de la littérature grecque et latine, mais aussi des compétences en matière de lecture et d'écriture. » Autrement dit, vous le voyez, en fait, ce livre veut montrer que les monastères ont été des lieux d'enseignement, mais qu'ils ont aussi joué un rôle déterminant dans la préservation et, d'une certaine façon, aussi dans la transformation, mais surtout dans la transmission des modèles classiques et gréco-romains, la culture chrétienne au sens large. Rôle hein, qu'on s'accorde à reconnaître aux monastères occidentaux, mais que, pour la même période, hein, mais qu'on a tendance à dénier aux monastères proche-orientaux. Alors, si cet ouvrage est intéressant par la multiplicité des approches et des sujets traités par les contributeurs, hein, je vous mets là la table des matières, vous verrez qu'effectivement, il y a de multiples éclairages. Eh bien, cet ouvrage, à mon avis, ne prend pas assez en compte, à de rares exceptions près, la documentation papyrologique. Et je ne dis pas ça uniquement parce que je suis papyrologue, mais je pense que cette documentation est à même d'éclairer ce problème. Cet ouvrage ne concourt pas à faire émerger des conclusions qui, sur le sujet des monastères comme lieu d'enseignement et de vecteur de la littérature grecque, ne se cantonne pas simplement à des positions générales, qui font souvent écho d'ailleurs à celles exprimées par quelques grands auteurs anciens, mais qui apportent aussi un éclairage précis sur les modalités concrètes que cet enseignement et cette activité de transmission ont pu prendre, notamment en Égypte, hein, puisque c'est le terrain d'étude de à peu près la moitié des contributeurs de cet ouvrage, et ce sera notre terrain cette année. Alors, que les monastères aient été des lieux d'enseignement, nul n'en doute, même Marou. Et les papyrus qu'on y a découverts le prouvent, comme nous le verrons. Mais la question est de savoir quel type d'enseignement ils ont dispensé et à qui. S'agissait-il d'un enseignement chrétien destiné aux moines pour les former à l'ascèse et aux grands principes théologiques, une sorte d'enseignement ascétique interne. S'agit-il d'un enseignement généraliste, de premier ou second degré, destiné aux novices et aux moines illettrés, ce que j'appellerais un enseignement généraliste, là encore, interne. S'agissait-il d'un enseignement généraliste de premier ou second degré destiné à des jeunes de l'extérieur? Un enseignement généraliste externe? Alors même que Marou invoque l'interdiction formelle faite au monastère de se charger de l'éducation d'enfants destinés à revenir au siècle, hein, j'en reparlerai, et affirme en conséquence que l'école monastique en pays grec est, si l'on peut dire, à usage interne. Et dans le cas d'un enseignement généraliste, quand je dis généraliste, c'est l'enseignement lettré, c'est-à-dire celui du grammatiste et du grammairien, du grammaticos. Dans le cadre de cet enseignement généraliste, à quelle pédagogie avait-on recours? Celle-ci s'inspirait-elle de celle des écoles du siècle ou rejetait-elle l'utilisation des textes classiques, notamment poétiques, hein, on l'a vu, fondement de l'enseignement traditionnel grec? Enfin, l'image que nous renvoie l'enseignement dans les monastères varie-t-elle selon le type de monachisme cénobitique? Quand je parle de monastère cénobitique, enfin de monachisme cénobitique, c'est, vous savez, un monachisme qui implique une vie en communauté, ou bien hérémétique. Et juste sur ce sujet, il est symptomatique que Herbert Winlock et Walter Crum, dans la publication des fouilles du monastère d'Épiphane, une lore non cénobitique, qui livrèrent une importante quantité de matériel scolaire, j'aurai l'occasion d'y revenir longuement, eh bien, il est symptomatique qu'ils écrivent dans leur synthèse que, je les cite, « l'enseignement des jeunes n'est pas une activité dans laquelle nous devrions nous attendre à trouver impliqué un moine non cénobitique ». Alors, toutes ces questions, je vous propose que nous cherchions ensemble à y répondre en partant des textes qui ont été découverts dans les fouilles, quelques textes inédits, mais sans nous empêcher de les croiser avec les sources littéraires, ce que j'essaierai de faire surtout dans les premières heures de cette série de cours. Alors, nous ne pouvons pas commencer cette recherche sans nous demander si monachisme et enseignement font bon ménage. Chez les modernes comme chez les anciens, des voix se sont fait entendre pour prétendre que non. L'inculture des moines est un leitmotiv qui parcourt la littérature ancienne. Il n'a pas été sans influencer les études modernes sur le monachisme, réactivées par les récits des voyageurs qui visitèrent l'Égypte au XIXe siècle, au XXe siècle, et qui dressent souvent un portrait très négatif des moines égyptiens contemporains, peut-être parce que souvent ces voyageurs étaient catholiques et n'avaient ni sympathie ni respect pour ces chrétiens qui s'obstinaient à ne pas se soumettre à Rome et à garder leur identité doctrinale, comme le dit la grande spécialiste du monachisme, Eva Wyszybska. Ou bien, quand ces voyageurs étaient philologues ou archéologues, et bien parce qu'ils n'avaient que mépris ou répugnance, soit pour la littérature chrétienne arabe, soit pour leur monastère, qui n'avait pas su évoluer en respectant les bâtiments d'origine, ou pire, dont la construction avait dégradé les monuments antiques de la période pharaonique ou gréco-romaine. Hein, on visitait l'Égypte avant tout pour l'Égypte pharaonique, assez peu pour les monuments de l'époque copte. L'orientaliste Claude-Étienne Savary, hein, qui a visité l'Égypte en 1776-1779, et qui a livré un récit qui a été extrêmement important, qui a influencé beaucoup la vision qu'on pouvait avoir de l'Égypte, ses lettres sur l'Égypte. Hein. Bonaparte l'avait dans ses valises quand il est venu en Égypte pendant l'expédition. Savary déjà parlait au sujet de la région d'Antinoé et de ses monastères. De la région d'Antinoé, il parlait de ces monastères coptes dont les religieux croupissent dans la misère et l'ignorance. Et plus tard, quelques années après, Robert Curzon, dans ses visites au monastère du Levant, publié à Londres 1849, ouvrage aussi qui a une très grande influence, eh bien, Robert Curzon va encore plus loin. N'ayant pas de mots assez durs au sujet des moines égyptiens qu'il traite selon l'occasion de fourbes, ignorants, superstitieux, sales, goinfres, ivrognes, etc. On croit entendre Libanios, que j'ai cité tout à l'heure, justement Libanios, qui, presque 1500 ans plus tôt, dans son De Templis, où il se plaint de l'ignorance et de la brutalité des moines qui viennent de détruire le grand et magnifique temple d'Édès, qui parle d'eux comme, et je le cite, comme des hommes vêtus de noir qui mangent plus que des éléphants et qui fatiguent par la quantité de coupes qu'ils vident ceux qui leur servent à boire au milieu des champs et qui cachent leur désordre sous une pâleur artificielle. Alors, présenter les moines comme illettrés n'est pas qu'une facilité à laquelle se laissent aller les païens. Je rappelle que Libanios était un païen et a lutté toute sa vie contre le christianisme. Donc ce n'est pas qu'une facilité à laquelle se laissaient aller les païens, désireux de combattre ce christianisme radical, ou plus tard les voyageurs modernes, déçus par ce qu'était devenu le monachisme oriental, sur la terre même où ce monachisme était né. C'est aussi une image que les chrétiens ont souhaité entretenir, et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'article qui est en référence à l'écran. La pureté du moine, ne pouvant s'accommoder des raffinements des choses de l'esprit, eh bien l'ascétisme monastique revendiqua une forme d'anti-intellectualisme, d'autant plus fort que la païdéia était intrinsèquement liée à l'hellénisme profane dont se réclamaient les opposants au christianisme, qu'on appelait à l'époque des hélènes. Hélène, quand vous trouvez ce terme dans un texte du 4e, du 5e, du 6e, ça ne veut pas dire grec, ça veut dire païen. Le moine, rejetant la culture, s'assimile aux apôtres. Acte 1.13, au sujet de Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction et du commun peuple. Et le moine surtout incarne les paroles de Paul dans cette première épître aux Corinthiens. C'est un texte important, je le cite. « Car il est écrit, je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où le scribe? Où le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?» Et là, le terme qui est utilisé en grec, moria, on pourrait presque traduire par stupide. « N'a-t-il pas rendu stupide la sagesse du monde? Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde n'a point connu Dieu par la sagesse, il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication les croyants. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, ce Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, vous voyez, appliqué, disons, au domaine monastique, le moine cultive donc cette folie de Dieu qui met l'éducation lettrée aux antipodes. Nombreux sont les apophthegmes des pères du désert qui se rattachent à cet idéal de l'ascète, refusant les charmes de l'éducation et de la connaissance. J'en citerai quelques-uns. Alors, avant, je rappelle que les apophthegmes des pères du désert sont des recueils de dits attribués à des moines et ermites d'Égypte ayant vécu au IVe siècle. Et ce livre est devenu vite un best-seller, se répandant grâce à de nombreuses traductions en copte, en arménien, en syriaque, en latin, etc., se répandant dans l'ensemble de la chrétienté orientale comme occidentale et forgeant le genre littéraire de l'apophthegme chrétien. Alors, sans entrer dans les détails, d'une tradition qui est très complexe, et pour ça je vous renvoie à l'ouvrage de Guy, Recherche sur la tradition grecque des apophthegmata patrum, je me limiterai à rappeler que ces recueils ont été transmis sous trois formes principales que j'aurai l'occasion de citer. La collection alphabétique, qui ordonne les presque 1000 apophthegmes, les presque 1000 dits selon le nom de leur auteur, ça va d'Antoine à Or, donc avec un oméga. Ensuite, la collection systématique, qui ordonne ces dits par grand sujet. Et la collection anonyme, qui est en fait la seconde partie de la collection alphabétique, et du coup on parle de collection alphabético, de la collection alphabético-anonyme, qui contient presque 800 dits anonymes. Alors j'utiliserai, selon les cas, ces trois collections, mais en essayant de privilégier la collection systématique qui a fait l'objet d'une édition et d'une traduction assez récente dans la collection des sources chrétiennes. Alors, voilà quelques-uns de ces dits. Un vieillard dit au bienheureux Arsène: « Comment se fait-il que nous, avec toute notre éducation et notre sagesse, nous n'obtenions rien, tandis que ces paysans égyptiens acquièrent de telles vertus ?» Abba Arsène lui dit: « Nous, nous n'obtenons rien avec notre éducation mondaine, mais ces paysans égyptiens, alors vous voyez, éducation mondaine, hein, comment ça rend Thès tout cosmou, paideseos, hein, l'éducation du monde, hein, cosmos, c'est le monde par opposition au monastère. Nous n'obtenons rien avec notre éducation mondaine, mais ces paysans égyptiens, c'est avec leur propre peine qu'ils acquièrent les vertus. » Autre dit, un jour, qu'Abba Arsène, c'est toujours lui, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce personnage qui est très important dans les apophtegmata, mais vous verrez qu'il acquiert pour mon propos une importance encore plus grande du fait de son histoire. Un jour, qu'Abba Arsène interrogeait sur ses propres pensées un vieillard égyptien, un autre qui le voyait dit: « Abba Arsène, comment toi qui connais tant l'éducation romaine et grecque, interroges-tu ce paysan sur tes pensées ?» Il lui dit: « Je connais l'éducation romaine et grecque, mais je n'ai pas encore appris l'alphabet de ce paysan. Ton, alphabeton, tu, agroikou, toutou. » On pourrait multiplier les exemples de ces bons mots qui participent d'une mythologie chrétienne du moine illettré ou opposé à l'éducation illettrée. Cette mythologie a modelé certaines figures hagiographiques, et la plus importante de ces figures, eh bien, c'est celle d'Antoine. Antoine, vous avez ici le plus ancien portrait connu d'Antoine qu'on a trouvé dans le monastère de Bawit et qui date du VIe siècle. Antoine, dont la position de fondateur du monachisme a donné ses lettres de noblesse justement au topos du moine illettré. Alors la célèbre vie que lui a consacrée le patriarche d'Alexandrie Athanase, à mort en 373, même si certains minoritaires pensent qu'il s'agit en fait d'une œuvre apocryphe, vie qui a eu tant de succès chez les moines, eh bien cette vie montre que dès le début, Antoine rejette l'éducation scolaire dès son plus jeune âge. Voici presque le début de la vie d'Antoine par Athanase. Petit enfant, il fut élevé chez ses parents et ne connut rien en dehors d'eux et de la maison. On se croirait presque qu'il est déjà presque moine dans son monastère. Il grandit, devient enfant et avançait en âge, mais il refusa d'apprendre les lettres car il voulait éviter la compagnie des autres enfants. Tout son désir était, comme il est écrit, d'habiter tout simple dans sa maison. Aplastos, nous dit le texte grec. Il se rendait pourtant avec ses parents à la maison du Seigneur. Il était attentif aux lectures et en conservait intérieurement le fruit. Donc vous voyez, Antoine refuse d'apprendre à lire et à écrire. Un grammata mantano, c'est ça ce que ça veut dire, hein. Apprendre les lettres, c'est avant tout apprendre à lire et à écrire. Pour éviter, nous dit-il, la promiscuité des autres élèves, et il préfère écouter les lectures à l'église. Voilà qui préfigure la vocation d'Antoine. Et ce texte est très important parce que tous les mots qui sont choisis par Athanase sont là pour anticiper ce que deviendra ensuite Antoine. Et on le voit, il affirme l'inutilité des lettres, prône un ascétisme où la formation passe non pas par les livres, mais par l'écoute. Athanase enfonce le clou plus tard quand il décrit les premiers pas d'Antoine sur le chemin de l'ascèse. Il priait continuellement, car il avait appris qu'il faut prier sans cesse, seul. Il était si attentif à la lecture qu'il ne laissait rien tomber à terre des paroles des Écritures, mais les retenait toutes, et que la mémoire lui tenait lieu de livre. C'est un thème qui revient souvent dans les apophthegmes, où le moine se plaît à mépriser ou à rejeter les livres. Juste quelques exemples avec cet apophthegme. Abba Théodore de Fermé possédait 3 beaux livres. Il alla trouver Abba Macaire et lui dit « J'ai 3 beaux livres dont je tire profit. Les frères aussi les utilisent et en retirent profit. Dis-moi donc ce que je dois faire, les conserver pour mon profit et pour celui des frères ou les vendre et en donner le prix aux pauvres. » Le vieillard lui donna cette réponse. « Les pratiques sont bonnes, mais la pauvreté est meilleure que tout. » Ayant entendu cela, il s'en alla les vendre et en distribua le prix aux pauvres. Et on retrouve la même idée dans le début de cet autre apophthegme. Un vieillard dit qu'un frère qui ne possédait qu'un évangile le vendit et en donna le prix pour nourrir les pauvres, etc. Ou alors, par exemple, dans celui-ci, un frère interrogea alors Sérapion en disant « Que puis-je te dire? Tu as pris le bien des veuves et des orphelins et tu l'as mis dans cette niche. » Et il montre une niche dans le mur, car il la voyait pleine de livres. Alors, je vous rappelle que dans l'Antiquité, les livres se mettaient justement dans des niches, ce qu'on appelle en grec la turis. Et je vous montre ici un exemple archéologique d'une de ces niches. Alors, quelquefois, on les a retrouvées avec une petite porte qui ferme. Turis, ça vient de Tura, la porte. Regardez, ça vient des fouilles de Caranis. Alors, je citerai un dernier exemple. Dans ses débuts, l'abbé Abba Prépios, en fait, il faudrait plutôt traduire par Abba, là, comme j'ai pris la traduction de Regnault des apophthegmes de la collection alphabétique, Regnault a une autre façon de traduire Abba, mais c'est disons, le grec Abba correspond à Abba, comme je l'ai dit, c'est une espèce de titre qui était donné aux moines. Dans ses débuts, Abba Prépios alla voir un vieillard et lui dit « Abba, dis-moi une parole m'indiquant comment être sauvé. » Le vieillard lui dit « Si tu veux être sauvé, quand tu vas chez quelqu'un, ne prends pas les devants pour parler avant qu'on t'interroge. » Alors, lui, saisi de componction à cette parole, fit une métanie, c'est-à-dire un geste de pénitence, en disant « Vraiment, j'ai lu beaucoup de livres et je n'ai jamais reçu une telle leçon. » Et il s'en alla extrêmement édifié. Donc, vous voyez, la leçon c'est un petit échantillon de ces apophthegmes qui tournent autour de livres, il y en a d'autres. La leçon de ces apophthegmes est que le livre, symbole de l'éducation lettrée, est un objet inutile dont le prix pourrait être mieux employé, qui n'apporte pas le vrai savoir, celui de Dieu, et qui s'oppose à l'action vertueuse. Il y a une opposition entre le savoir théorique et l'action que nous retrouverons tout à l'heure. Pour revenir à Antoine, ce refus du livre se retrouve justement dans une anecdote qui est rapportée par le célèbre historien ecclésiastique que j'ai eu l'occasion de citer tout à l'heure, Socrate le scolastique, dans le chapitre qu'il consacre au moine égyptien au livre 4 de son histoire ecclésiastique. Un des sages d'alors vint trouver le juste Antoine et lui dit « Comment supportes-tu, père, d'être privé de la consolation des livres ?»« Mon livre, philosophe, dit Antoine, c'est la nature des êtres. Et il est là quand je veux lire les paroles de Dieu. » Alors justement, reprenons, puisqu'il s'agit d'Antoine, reprenons le récit de la vie d'Antoine d'Athanase. Alors, sur lequel je vais m'apesantir un petit peu parce qu'il nous permet de rentrer dans la fabrique, je dirais, la fabrique du stéréotype de l'ascète contempteur du savoir profane, enfin de la littérature, de la culture littéraire. La culture littéraire plus que du savoir profane. Alors, après son enfance et ses débuts dans l'ascétisme, Athanase dresse le portrait d'un d'un sage, Sophos, hein, il utilise le terme grec Sophos, dont la foi ne cesse de contrer les sophismes, les syllogismes, et les démonstrations de toutes sortes, apanage des philosophes ou des parleurs, des beaux parleurs païens. Voilà un extrait. Plus tard, évidemment, alors, tandis qu'Antoine est retiré dans son ermitage, des gens, des visiteurs viennent, il est célèbre, on vient de partout pour le voir, pour lui parler, et les païens notamment essayent de le contrer. Bon. Donc plus tard, il en vint d'autres visiteurs, hein, encore, ils étaient de ceux que les païens considèrent comme des sages, pour lui demander raison de notre foi au Christ. N'oubliez pas que c'est Athanase qui parle, hein, évêque d'Alexandrie. Notre foi au Christ. Lorsqu'ils essayèrent d'employer leur syllogisme à propos de la prédication de la divine croix et voulurent s'en moquer, Antoine d'abord se retint un peu par compassion pour leur ignorance. Hein, agnosia, dit le texte grec. Puis, donc l'absence de savoir, hein, gnosko, gnosis. Puis il dit par un interprète qui rendait bien ses pensées, je vous rappelle qu'Antoine, j'avais eu l'occasion de le dire il y a quelques années, Antoine ne maîtrisait pas le grec. Et donc, il communiquait avec les Grecs par le biais d'interprètes. Il dit, et etc., on nous rapporte les paroles. Alors, vous voyez qu'à travers ces quelques lignes que je vous ai lues, on assiste à un renversement ironique. Le savant devient ignorant, tandis que c'est l'inculte qui est le vrai sage. Les propos qu'il tient à ces mêmes pseudo-sages, un peu plus loin dans le texte, sont sans équivoque dans son opposition entre foi et démonstration sophistique. Alors, je vous les lis et faites bien attention au vocabulaire qui est utilisé. Hein. Toujours, il y a un lexique qui est utilisé par Athanase de façon tout à fait scrupuleuse pour son propos. Donc, pour ceux en qui est présente la foi agissante, et diapisteos energeia, c'est un terme philosophique, hein, l'energeia, l'énergie, pour cela, la démonstration par des raisonnements n'est pas nécessaire et probablement superflue. Car ce que nous connaissons par la foi, c'est Antoine qui parle, vous tâchez, vous, hein, ces visiteurs qui viennent, notamment les païens, vous tâchez de l'établir par des raisonnements. Et souvent, vous ne pouvez même pas exprimer ce que nous connaissons. La foi agissante est donc meilleure et plus forte que vos syllogismes sophistiques. Ton, sophisticon, humon, soligismon. Syllogismon, pardon. Ou encore, un petit peu plus loin, pour nous donc les chrétiens, le mystère ne réside pas dans la sagesse des raisonnements païens, et vous voyez que pour païens c'est hellénikon, hein, qui est utilisé, donc ça renvoie à la fois au paganisme mais aussi à la culture grecque en général, ne réside pas dans la sagesse des raisonnements païens, mais dans la force de la foi que nous accorde Dieu par Jésus-Christ. Et que notre parole est vraie, en voici la preuve. Sans avoir appris les lettres. Me matontes grammata, on retrouve la même expression que tout à l'heure. Sans avoir appris les lettres, nous croyons en Dieu, reconnaissant dans ses œuvres sa providence universelle. Et que notre foi est agissante, en voici la preuve. Nous nous appuyons sur la foi au Christ, vous, sur des arguties sophistiques. Sophisticais logomachiais, nous dit le texte. Logomachiais, hein, c'est le fait de faire des joutes oratoires. Mais tandis que vos idoles et leurs illusions sont réduites à néant, notre foi se propage partout, vous avec vos syllogismes, on retrouve encore ces mots, hein, qui appartiennent tout au même réseau lexical, avec vos syllogismes et vos sophismes, vous ne persuadez aucun chrétien de se convertir au paganisme. Nous, en enseignant la foi au Christ, nous affaiblissons votre superstition, car tous reconnaissant que le Christ est Dieu et le Fils de Dieu, vous, par votre belle éloquence, vous ne pouvez empêcher l'enseignement du Christ. et il enfonce encore le clou, ces arguments suffisent à montrer que seule la foi au Christ mène véritablement à la piété. Si encore maintenant vous êtes incrédule et cherchez des raisonnements et des syllogismes, et on retrouve toujours ces mots, hein, ek ton logon syllogismus, nous, au contraire, ce n'est pas par le langage persuasif, et là, en grec, on a le mot peito qui est utilisé, qui renvoie à la rhétorique, à la persuasion, ce n'est pas le langage persuasif de la sagesse païenne, comme l'a dit notre docteur, que nous démontrons, mais nous persuadons par la foi qui précède manifestement les raisonnements et l'argumentation. Et on retrouve encore ces mots. Donc, vous voyez, Athanase ne cesse, dans ce texte, de développer la même opposition avec trop d'insistance pour que cela ne corresponde pas à un message qu'il essaye de faire passer. Il construit méthodiquement par une série d'antithèses entre foi, la foi qui est un mystère, donc qui ne peut faire l'objet d'un enseignement, et raisonnement qui ne produit que syllogisme et sophisme. Il construit comme ça la figure de l'ascète refusant le savoir acquis par la pratique des exercices préparatoires à la rhétorique, hein, sous la férule du grammairien et du sophiste. Donc, vous voyez, le message subliminal, dirais-je, est que la vraie foi n'a pas besoin de l'outillage intellectuel inculqué par l'école. Antoine est encore plus clair, d'ailleurs, dans une autre réponse qu'il fait à ses visiteurs, désireux de le pousser dans ses derniers retranchements. D'autres gens, dit-il, de même espèce, nous dit Athanase, d'autres gens de même espèce vinrent trouver Antoine une autre fois à la montagne extérieure et pensaient se moquer de lui parce qu'il n'avait pas appris les lettres. Et on retrouve toujours cette même expression, un mémate qué grammata, un mantano grammata. Antoine leur dit: vous, qu'en dites-vous? Qui est le premier? L'esprit, le nous, ou les lettres, les grammata? Qui est cause de l'autre? L'esprit des lettres ou les lettres de l'esprit? Lorsqu'ils répondirent que l'esprit était le premier et l'inventeur des lettres, Antoine reprit: donc, pour qui est saint d'esprit, les lettres ne sont pas nécessaires. Et l'expression grecque qui est utilisée par Athanase mérite qu'on la relève. Ouk anankaya ta grammata. On ne peut mieux affirmer l'inutilité de la culture écrite et donc de son acquisition, c'est-à-dire tout simplement de l'enseignement. C'est une idée que l'on retrouve fréquemment dans les apophthegmes. Cette autre œuvre qui n'a pas peu contribué à la construction de l'image du moine idéal, mais je vous propose que nous voyons ça la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.